Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour et bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Dans ce 10-10, aujourd'hui nous allons parler de pauvreté avec Dominique Anthony et Françoise Thuil. Alors je vais d'abord présenter Françoise Thuil, honneur aux dames. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise, vous êtes responsable de l'équipe d'accompagnement social à la maison Campredon pour le Secours catholique.
C'est ça.
Et vous Dominique, bonjour.
Bonjour.
Alors Dominique Anthony, vous êtes responsable de matinée à la Halle Solidarité Guy de Montpellier qui accueille chaque matin près de 250 personnes. Et donc vous êtes aussi membre de l'équipe de communication du Secours catholique de l'Hérault. Bonjour donc à tous les deux. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un bilan qui est paru au mois de novembre, je crois. Donc, ça fait déjà quelques mois. Ça va vite, le temps passe vite. On avait projeté de faire cette émission, effectivement, pour parler de ce fameux bilan et de la façon dont la pauvreté évolue en France, mais aussi à Montpellier. Donc, peut-être on va présenter rapidement, parce que vous savez qu'on a peu de temps, on va présenter rapidement le Secours catholique de Montpellier, son nombre d'adhérents, ses objectifs, qui sont sûrement communs avec le national. Mais soit Françoise, soit Dominique, là vous allez vous répartir les rôles. Bah, Dominique.
Oui, d'abord,
ça tombe sur Dominique.
Je vais vous dire d'abord que dans l'Hérault et ailleurs d'ailleurs, hein, le Secours catholique, c'est d'abord une école de la fraternité. Vous avez parlé de pauvreté. Moi, je mettrais d'abord la fraternité qui nous rassemble. Avant de vous donner des chiffres, et c'est vrai qu'il en faut aussi quelques-uns, un mot sur ce que nous sommes, parce que nous sommes d'abord un service de l'Église catholique, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique et nous sommes membres fondateurs de la Fédération Caritas Internationalis. C'est-à-dire qu'en fait, le Secours catholique, c'est en France, mais en fait, le Secours catholique, c'est Caritas et Caritas dans le monde entier. Alors, on existe depuis quand ? On existe depuis le 8 septembre 1946, c'est-à-dire qu'on va fêter cette année, en 2026, nos 80 ans d'existence. Elle est belle la fraternité, puisqu'elle existe et qu'elle se développe encore. Et nous sommes là et toujours là depuis 80 ans. Alors, nos fondamentaux, vous en avez dit un mot, ils n'ont pas changé. Lutter contre l'ensemble des causes de la pauvreté, pauvreté économique, pauvreté sociale, pauvreté territoriale aussi. Bien sûr, en 80 ans, c'est absolument incontestable et indispensable. Nos champs d'action ont changé, se sont élargis, parce que tout simplement la société a changé et les besoins aussi.
Et que les
aussi,
types de pauvreté également.
On va en parler. Accueil, alors nous, c'est quoi principalement ? C'est l'accueil inconditionnel dans nos centres, c'est l'accompagnement scolaire, c'est l'aide à l'accès aux droits, au logement, c'est l'aide à manger à sa faim avec nos épiceries solidaires, nos jardins partagés, nos cuisines solidaires et celle de Campredon, tout à l'heure nous allons en parler, c'est formidable, nos boutiques solidaires, nos ateliers créatifs, j'en oublie certainement. Alors voilà, ça c'est globalement le cadre. Maintenant, dans l'Hérault, qui nous sommes ? Quelques chiffres pour nos auditeurs. 45 lieux d'accueil dans tout le département, du Minervois à Marcillargues et du Quélard à Agde, en passant bien sûr par les grandes villes, Béziers, Montpellier, Pézenas, bien entendu. 45 lieux d'accueil, 14 870 ménages rencontrés, et souvent, bien entendu, rencontrés pour être aidés.
Et 800 plutôt bénévoles, plus des femmes que d'hommes.
Voilà, on va en parler aussi, 800 bénévoles, sans doute un peu plus maintenant, entre 800 et 900. Seulement 9 salariés, il faut le dire, hein, 9 salariés au Secours catholique pour faire tourner cette entreprise pas comme les autres. Alors on parle de délégation parce qu'on est dans un département, la délégation 34 du Secours catholique, eh bien elle se porte bien. Un mot sur nos priorités dans l'Hérault si ça vous intéresse.
Tout à fait.
Pour 2026-2028, première priorité, mieux accueillir, ça veut dire concrètement faire vivre nos valeurs et développer l'accueil inconditionnel. Priorité numéro 2, agir pour favoriser l'accès aux droits et lutter contre l'isolement. Concrètement, c'est faire en sorte que ceux qui ont des droits puissent enfin les faire valoir, ce qui est loin d'être le cas.
Et donc peut-être les connaître.
Et bien sûr,
on verra qu'il y a un problème avec le RSA, par exemple.
Voilà, exactement. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau mal qui nous touche tous, c'est la fracture numérique, c'est l'électronisme qui crée malheureusement deux catégories de citoyens, ceux qui savent utiliser Internet et qui maîtrisent les procédures en ligne, et tous ceux qui ne savent pas et qui ont d'ailleurs honte de ne pas savoir. La troisième priorité...
Alors, je vous arrête là, c'est très étonnant sur la fracture numérique, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle. Donc on pouvait penser que peut-être des choses se feraient, avanceraient, changeraient, et vous ne le constatez pas, vous?
Non, absolument pas. C'est une fiction de penser que la fracture numérique est en train de se résorber.
Même chez les jeunes?
Même chez les jeunes.
Parce qu'à un moment donné, elle s'expliquait par le fait que certaines personnes âgées n'arrivaient pas à se mettre à Internet, etc. etc.
Non, les jeunes savent utiliser leur portable à merveille. Mais après, pour rentrer dans les procédures concrètes, pour aller dans les dossiers, pour ouvrir et avoir des droits auxquels ils ont droit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les jeunes aussi, malheureusement, sont
touchés par ça. Est-ce que ça tient uniquement au numérique ou est-ce que ça tient à l'éducation, justement, par rapport à toutes ces questions-là? On vit dans une société qui est extrêmement administrative, je vais dire.
Oui, mais...
Et peut-être que ça ne rentre pas du tout dans leur compréhension.
Ça n'est pas dans leur culture, ça n'est pas dans leur connaissance, mais objectivement, ce qu'ils croient connaître, ils le connaissent bien, mais il y a des pans entiers de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est très préjudiciable. J'en reviens à nos priorités, j'irai après, on ira plus dans le détail si vous le voulez bien. C'est essayer de travailler, alors je sais que c'est un point important, éviter de travailler en silo, c'est-à-dire voir ce qui se passe à côté de soi, mieux repérer, mieux travailler avec les acteurs institutionnels, développer les partenariats avec des associations proches, et il y en a beaucoup, d'ailleurs notamment à Montpellier, et vous en savez quelque chose. Enfin, la dernière priorité, et je m'arrêterai là, soutenir l'action des bénévoles, ça veut dire d'abord bien les recruter, mieux comprendre leurs attentes, déterminer avec chacun où il sera le plus utile, mieux les former, plus les écouter. Vous savez, c'est une immense richesse, les bénévoles. Le bénévolat, c'est extraordinaire. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment, vraiment travailler avec eux, chérir cette donnée du bénévolat.
Oui, alors 800 bénévoles, c'est bien la preuve que vous avez un savoir-faire pour d'abord faire venir des bénévoles et ensuite les garder, parce que toute l'histoire, c'est aussi de les garder. Il y a des gens qui viennent un an, deux ans, puis qui s'en vont. Et ça, c'est un peu dommage. Et donc, la question de la formation est sûrement très importante aussi. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur quelques chiffres qui concernent le territoire de l'Hérault. J'ai regardé ce fameux rapport. Et donc, il y a des choses qui concernent le territoire de l'Hérault. On a une minute et demie pour en parler. Le niveau de vie médian pour l'ensemble des ménages rencontrés est de 726 euros, soit une baisse de 10% entre 2021 et 2023, c'est-à-dire en deux ans. Le taux de pauvreté est de 19% pour l'Hérault, alors qu'il est de 14% au niveau national, pour un taux de chômage de 10,1% au national, pour l'Hérault, pardon, contre 7,3% au national, ce qui veut dire qu'il y a peut-être plus de travail encore chez nous, plus de choses à faire, plus de rencontres, plus de collaborations, plus de sous à trouver, plus de bénévoles.
C'est Dominique. Alors, moi vous donnez des chiffres, vous avez raison de les donner. Hein.
Je veux dire par là que l'Hérault est un petit peu plus mal en point sur le plan de la pauvreté que d'autres territoires nationaux. Voilà.
Alors, d'abord, il faut expliquer, je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs comment on travaille. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que chaque année, depuis 1994, il y a un rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France et que ce rapport national, il est décliné au niveau départemental, département par département.
Alors, sur le bilan national, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. Là, on est sur le département.
Alors, là, on est sur le département. Mais donc, ça fait 30 ans qu'on analyse l'état de la pauvreté en France. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, malheureusement, elle ne recule pas. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans les roues. On est d'accord. Hein ? Et comment on travaille ? Tout simplement, on a des fiches statistiques. Elles sont complétées par nos équipes d'accompagnement social, ici dans les ronds, dans les roues. Par exemple, je vais vous donner un chiffre. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, on a rentré 700 fiches pour mieux connaître la situation dans les roues. Et voilà, je crois que c'est effectivement très important.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième partie, on va rentrer plus dans le détail, effectivement. Mais je voulais effectivement qu'on ramène quand même tous ces chiffres au niveau de l'Hérault. C'est important aussi. Tout de suite, une première pause musicale. Et c'est vous, Dominique, qui l'avez choisi. Mais vous nous direz pourquoi après. Je crois que c'est comme ça que vous voulez qu'on procède, à moins que vous vouliez le faire maintenant.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai choisi une très belle chanson de Rosalia, une chanson que Bork a écrite pour elle. Alors, c'est une chanson, elle est en allemand, elle est en anglais et elle est en espagnol. Et c'est une très belle chanson, c'est son dernier ouvrage, son dernier CD. Lux, la seule façon pour nous d'être sauvés passe par une intervention divine. C'est une très belle chanson, je vous la laisse la découvrir, mais je pense que vous la connaissez déjà.
Allez, on écoute. Regardez cette chanson, ben non, ça y est, elle est terminée. Donc Dominique, je reviens vers vous. Françoise aussi, vous représentez le Secours catholique aujourd'hui à l'antenne de Radio FM+. Je remercie Olivier, je ne sais pas si je l'avais cité, qui est à la technique. Et je remercie les auditeurs qui nous écoutent. Alors on a fait un petit point, un petit tour rapidement de ce que pouvait être le Secours catholique, de l'importance que cela revêtait de plus en plus ailleurs. Cause nationale en 1994, la pauvreté. Les choses ne se sont pas forcément arrangées, même si vous faites une petite moue, Dominique, les choses ne vont pas forcément mieux. C'est peut-être les publics qui ont changé. Vous avez des sous quand même à la délégation de l'Hérault, puisque j'ai vu dans votre rapport que vous avez mobilisé quand même 1 500 000, enfin grosso modo, 1 50 000 euros en faveur des précaires. Et les origines, ce sont des dons, apparemment.
Voilà, vous faites les questions et les réponses, je vous remercie, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est 90% de dons de legs, le reste, les 10% qui restent, ce sont des subventions de l'État, des collectivités territoriales, et on les remercie ici, d'ailleurs, en direct. Pour vous faire un don, et voilà le bon numéro, moi je vous donne un numéro parce que je m'adresse directement à vous, auditeurs et auditrices de Fréquence Plus, un téléphone 04 98 13 61 13, 04 98 13 61 13, vous appelez ce numéro et vous pouvez faire un don.
Donc, et dons... l'OSO, non?
Et nous avons un bénévolat.340@secours-catholique.org.
Mais le site Eloasso, non. On ne peut pas faire un don sur Eloasso.
Non, on souhaite avoir un contact direct.
D'accord.
Direct. C'est,
okay.
plus humain. On est d'accord.
Humain. Bon, alors, donc, comment ce bilan, puisqu'on parle de ce fameux bilan des 30 ans de pauvreté, comment ce bilan est-il établi? Qui le fait? À partir de quelles données? Et donc, quel est le constat?
Alors, on parlait tout à l'heure de 14 870 ménages rencontrés en 2024. On parle de 2024, hein, puisque le bilan, il est affiché en 2025, mais il correspond au chiffre 2024. En 2024, à partir de ces 14 870 ménages, il y a près de 700 fiches qui ont été remplies. C'est ça, un échantillon valable pour tirer les enseignements locaux. Alors, les conclusions... sur 30 ans de pauvreté, oui, vous avez raison, la pauvreté, malheureusement, elle s'enfonce, elle augmente. Mais en même temps, elle change, son visage est en train de changer. Première conclusion, c'est vrai ici, c'est vrai partout, ce sont les femmes et les enfants qui sont en première ligne. En 2024, les femmes représentent 56% des personnes rencontrées. En 1994, elles étaient déjà majoritaires. C'est un phénomène constant, c'est un phénomène structurel. Et en plus de 30 ans, cette situation s'aggrave globalement 5 points de plus en 30 ans. Chez nous, dans l'Hérault, c'est encore pire. 58 personnes accompagnées sont des femmes. Donc effectivement, là, il y a un élément structurant, fort, dramatique. Ce sont les femmes qui morflent le plus. Deuxième conclusion, la pauvreté est davantage liée à des problèmes de santé et de handicap. Ça, c'est un élément nouveau. En 2024, 23% des personnes rencontrées ont des problèmes de santé. En 99, ils étaient seulement 15%. Donc, il y a
une évolution aussi,
une aggravation,
voilà.
Hein, vraiment. Dans notre département, 33% des femmes inactives rencontrées le sont pour inaptitude. Et ça aussi, c'est un élément nouveau qui, malheureusement, recolore, si je puis dire, la pauvreté. Il y a une troisième conclusion, il y a un nouveau visage de la pauvreté. Et celui-là, je voudrais vraiment insister, c'est celui des travailleurs pauvres. C'est quoi un travailleur pauvre ? C'est quelqu'un qui travaille, qui a un travail, qui a un boulot, mais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts, soit parce qu'il a un emploi précaire, ou qu'il est payé au lance-pierre, ça arrive aussi. En 2024, le taux d'emploi des adultes rencontrés est de 18% au niveau national, 15,7% dans l'Hérault. 72% des personnes en emploi occupent un emploi précaire. Du genre, je vous donne un exemple, des emplois à temps partiel, le plus souvent, ils sont occupés par les femmes. Les emplois à temps partiel, c'est 27% des emplois au niveau national, 34% dans l'Hérault. Alors là, vous voulez un chiffre significatif, le voilà. C'est le temps partiel, les emplois en temps partiel, l'Hérault. Pas championne de toute catégorie, mais on pourrait dire. Ça veut dire qu'une personne sur trois dans notre département, dans la population rencontrée par les animatrices du Secours catholique, il faut le dire, une personne sur trois, c'est énorme, 34% exactement, est à temps partiel.
Alors, si je résume ce que vous venez de dire, et si c'est le moment de le faire, je ne sais pas. Moi, j'ai noté les femmes isolées et souvent en emploi précaire. Quand elles ont un emploi. Les femmes isolées de plus de 50 ans et parfois avec un problème de santé ou de handicap. Les jeunes ou les personnes seules et les seniors. Et puis il y a toujours cette différence entre la ville et la campagne. Les ruraux sont plus touchés quand même en général que les gens qui sont en ville et qui ont peut-être plus d'opportunités de rencontrer, de se faire accompagner, etc.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la campagne aussi, désormais, est touchée. Alors après, il y a d'autres...
Mais moins quand même que... Enfin, plus, ça augmente dans la campagne.
Dans nos campagnes, dans nos villages, il y avait une solidarité familiale. Il y avait une solidarité villageoise. Cette solidarité, elle est en train d'exploser. Elle n'existe plus. Elle existe moins. Après, il y a un autre élément qu'il ne faut pas passer sous le boisseau, c'est de dire que la pauvreté, elle touche aussi une part croissante des ménages étrangers. Je vous donne deux chiffres. En 2024, 52,7% des adultes accueillis par le Secours catholique sont de nationalité étrangère, contre 20% en 1994. C'est une progression,
explosion.
Oui, voilà. Parce qu'elle est sans lien avec la hausse de la part des étrangers en France. Je vous resitue la part des étrangers en France, 6,1 en 1994, 8,2 en 2024.
Oui, donc pour une augmentation de 2% de présence étrangère en France, nous avons une augmentation de
50%. Plus de 50%
qui sont dans la pauvreté.
Voilà. Et après, il y a les femmes aussi, les mères isolées, les mères étrangères. Et puis, il y a aussi le phénomène d'une précarisation qui est liée au fait qu'il y a une baisse des régularisations. Ça, c'est au niveau politique, au niveau global. Et là, je terminerai par ça. Il y a une augmentation, vous l'avez dit, de la pauvreté des seniors. Hein, on l'a dit. Pauvreté rurale, elle gagne du terrain. Bah oui. La pauvreté rurale a doublé en 30 ans. Elle est passée de 16% en 94 à 32% en 2024. C'est considérable.
Alors, là, il va nous rester une toute petite minute avant que vous nous proposiez votre deuxième pause musicale. Mais on parle de pauvreté. Mais c'est quoi finalement la pauvreté ? C'est quand on a moins quand on n'a pas de logement, quand on a moins de temps d'argent pour vivre tous les mois, quand on est isolé ?
Alors la pauvreté, elle est tout à fait renseignée d'un point de vue statistique. Statistiquement, on parle d'un travailleur pauvre quand une personne a un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit en 2024, 1316 euros mensuels.
Ça veut dire que pour vivre et non pas survivre, il faut avoir plus de 1300 euros par mois.
Voilà, on estime qu'effectivement, c'est vraiment le seuil, le plancher absolu.
Tout en sachant qu'il y a des... Enfin, je veux dire, quand on fait le rapport entre ces gens-là, qui sont donc finalement extrêmement nombreux, parfois isolés, mal renseignés, ne trouvant pas de travail, avec les plus riches, l'écart est absolument extraordinaire.
Alors, il est abyssal, hein, il est abyssal. Si vous voulez, si on veut résumer, on peut dire qu'en fait, en 30 ans, on est passé d'une pauvreté conjoncturelle à une pauvreté chronique. Multidimensionnelle et structurelle.
Et chronique.
Et chronique, alors...
C'est-à-dire qu'elle se répète elle-même.
Nous disons qu'elle n'est pas chronique. Nous voulons croire et nous nous battons contre ça. Mais elle est, en fait, structurelle. Et puis, il y a un autre élément qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est que le regard sur la pauvreté, malheureusement, a changé. Avant, il y avait de l'empathie. Mais les regards aujourd'hui se font de plus en plus méfiants. Il arrive que les pauvres, il faut le dire, sont perçus comme coupables de leur situation. Il y a en France une stigmatisation croissante, grandissante de la pauvreté. Ça, c'est inquiétant. Et nous, Secours catholique, on lutte contre ce regard-là.
Alors ça tient peut-être aussi, je le dis en un mot, au fait que tout le monde est la majorité des Français est en train de lutter contre l'augmentation de la vie, la peur du chômage, etc., etc. Il y a probablement cette crainte qui se renvoie sur des personnes que l'on voit pauvres et vers lesquelles on ne voudrait pas devenir pauvre, et on s'occupe de soi d'abord, et les pauvres, on verra après. Mais on verra quand même qu'il y a des gens, fort heureusement, que le Secours catholique est là, et bien d'autres organisations qui, effectivement, ont un regard bien plus bienveillant et bien plus compréhensif sur la situation de certains. Deuxième pause musicale, Dominique.
Alors là, j'ai choisi La Tendresse, qui est un titre extrêmement connu. Elle a été créée, ce titre a été créé en 63 par Bourvil, mais il n'y a pas que lui qui l'a chanté. Il y a Marie Laforêt, il y a Les Enfoirés, il y a Zaz. Et moi, j'ai choisi la version de Kids United parce que je l'aime beaucoup. Elle est très fraîche, elle est très belle. Et les paroles, je vous dis un mot. Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse.
C'est pour nous.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire. Eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 non.
Retour à l'antenne avec Dominique Anthony et Françoise Tulle qui nous parle aujourd'hui du fameux bilan sur 30 ans de pauvreté qui a été établi par le Secours catholique. Alors nous avons vu que cette pauvreté était loin d'être effectivement en baisse, c'est plutôt en hausse. On a vu que les publics avaient changé, que ça avait évolué, ce qui
Exactement.
N'exclut pas d'ailleurs que de précédents publics soient encore dans des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est évidemment, la question est un peu facile, un peu simple, un peu benoîte. Mais comment on fait évoluer les choses? Est-ce que c'est en travaillant avec d'autres associations? Est-ce que c'est en faisant évoluer les mentalités? Est-ce que c'est en ayant plus d'argent? Est-ce que c'est en ayant une analyse plus fine? Est-ce que c'est en informant les gens qui sont dans la difficulté? Par exemple, question RSA, il y a plein de gens qui ne le touchent pas alors qu'ils y auraient droit.
Absolument. Donc, nous ne sommes pas dans le discours populiste au Secours catholique. Nous avons des objectifs précis et nous avons des plaidoyers pour les défendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas de solution miracle, vous avez raison de le dire. Le secours
d'autant
catholique,
plus que c'est un terrain mouvant, hein. Ça change au fil des années et des générations.
Mais on peut avoir quelques balises qui nous portent et qui nous guident. D'abord, on défend le droit à une vie digne pour tous, par un accès à des services publics de qualité, l'humanisation de notre système de protection sociale. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une rupture qui est terrible, la rupture numérique, la mise en place d'une véritable politique de lutte contre le non-recours au droit. Vous savez qu'il y a un peu plus d'un tiers des personnes qui ne perçoivent pas ce auquel elles ont droit, et la mise en place d'un revenu minimum garanti pour tous. Ça, ce sont les éléments forts du secours catholique. Mais si je suis là, je suis vraiment heureux d'être là, parce que je vais donner un scoop aux auditeurs de Fréquence Plus. Le scoop, il est le suivant, c'est que le secours catholique est candidat aux élections municipales de 2026. Avouez que vraiment, c'est pas mal. Alors pourquoi ?
Vous allez faire une liste ? C'est
pourquoi,
un mot pourquoi, ou vous allez
bon,
faire
pourquoi,
une
pourquoi,
liste ?
Pourquoi ? Je vais vous dire ça dans le détail. Parce que les 800 bénévoles du secours catholique accompagnent les plus pauvres de nos cités, de nos villages, de nos communes, etc. Nous les aidons à se nourrir, nous les aidons à trouver des raisons de vivre, parce que nous les accompagnons aussi dans leur cheminement. Et pour toutes ces raisons, le Secours catholique soutient la candidature de ces bénévoles ou des personnes qui l'accueillent, je dis bien aussi des personnes qui l'accueillent, pour porter la voix des plus faibles au sein des CCAS de chaque commune, qui sera mis en place le 22 mars 2026. Donc notre parti, c'est le parti des plus pauvres. J'ai envie de vous dire, rejoignez-le et soyez candidat au nom du Secours catholique dans les CCAS pour faire entendre votre voix.
Donc là, vous répondez presque à une question que je comptais vous poser en vous disant, comment allez-vous peser, par exemple, sur les institutions qui doivent faire des choix politiques aussi ? Alors, on sait que c'est vrai pour la culture, on sait que c'est vrai pour la pauvreté, on sait que c'est vrai pour l'éducation, on sait que c'est vrai pour la sécurité. Pardon, je m'étouffe. Mais je pense qu'effectivement, c'est une façon...
C'est une façon de peser dans le débat. C'est une façon de dire on existe. C'est une façon de dire on fait un travail de fond depuis des années et des années. Et d'ailleurs, nos relations avec les collectivités territoriales ou l'État sont bonnes.
Sont-elles bonnes avec les autres associations ? Parce que quand on regarde bien sur Montpellier, il y a énormément, certaines d'une façon générale, travaillant avec des gens pauvres, d'autres travaillant plus particulièrement avec les immigrés, avec les SDF, avec les femmes seules, etc. Est-ce qu'il y a une coordination de toutes ces actions ?
Absolument, il y a une coordination.
Est-ce qu'il n'y a pas de perte d'énergie ?
Chacun milite où il veut, en fonction de sa sensibilité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une bonne collaboration. Je trouve que justement, dans le microcosme de lutte contre la pauvreté, j'ai envie de dire, à Montpellier, il y a une bonne coordination. Il y a de bonnes coordinations. Et ça tient aussi au travail qui est fait au niveau de la municipalité, qui nous stimule et qui nous rassemble sur des objectifs clairs. Donc globalement, à Montpellier, c'est une situation de très bonne entente. On a cessé de travailler en silo et on travaille réellement pour le bien commun.
Et chacun a sa place. Vous avez arrêté de travailler en silo, c'est ça ?
Voilà, on a arrêté de travailler en silo. Travailler en silo, pour nos auditeurs qui ne le comprennent pas, ça veut dire travailler chacun pour soi, sans regarder ce qui se passe à côté. Ça n'est pas du tout le cas.
Déjà, si cette coordination existe dans les associations de l'Hérault, c'est pas mal, parce que ce n'est pas toujours le cas quand on parle effectivement à des niveaux institutionnels ou politiques.
De ce côté-là, on est bon.
Je me tourne vers, qu'on n'a pas entendu, qui est sage comme une image. Je me tourne vers Françoise Thuil, donc vous êtes responsable de l'équipe d'accompagnement social de la Maison Comprodon. On a bien compris qu'il y avait plusieurs pôles, plusieurs endroits où les gens pouvaient se rendre. Et vous, donc, parlez-nous un tout petit peu de votre engagement, bien évidemment, et dites-nous, parce qu'il va y avoir un grand concert après-demain, le 15 février. Donc, vous allez nous présenter ce concert, qui est aussi un moyen de faire rentrer des sous dans les caisses.
Oui, alors, l'équipe d'accompagnement social reçoit plusieurs fois par semaine des personnes qui lui sont envoyées, la plupart d'entre elles, par les travailleurs sociaux. Donc on parlait tout à l'heure de collaboration. Cette équipe et toutes les équipes semblables dans l'Hérault travaillent forcément avec les services du département, par exemple, ou avec des associations chargées de suivre les personnes bénéficiaires du RSA. Et notre mission, c'est d'être en complément, d'agir en complément de ce qu'elles font, et non pas de nous substituer à elles. Et nous veillons toujours à ce qu'il y ait d'abord une intervention de financement public avant de pouvoir intervenir nous-mêmes, d'abord parce qu'on n'y arriverait pas au niveau du volume, mais aussi parce que nous ne sommes pas là pour nous substituer à...
Ni pour faire des promesses qui ne seraient pas tenues.
Voilà. Mais alors, nous recevons des personnes précaires, avec effectivement beaucoup de femmes seules, avec des enfants.
C'est un constat que vous voyez sur
c'est
le terrain,
un constat,
l'un et l'autre.
Voilà. On reçoit quelquefois des pères seuls aussi. On reçoit beaucoup de personnes isolées. Et je pense que l'isolement, c'est aussi une forme de pauvreté. Et grâce à l'épicerie solidaire et à toutes les activités qu'il y a à la maison Campredon, au-delà de l'aide financière que nous pouvons apporter, nous pouvons accompagner, entourer, veiller à ce que les personnes se sentent des personnes qui existent et non pas qui sont rejetées.
De nombreuses missions, de nombreuses actions, parmi celles-là, l'organisation d'événements importants. Le concert du 15,
oui. Alors, nous cherchons à diversifier les ressources parce que, certes, il y a 1 050 000 euros de budget au niveau de l'Hérault, mais je vais donner un chiffre, notre équipe a un budget de 48 000 euros. Et nous avons reçu l'année dernière et aidé l'année dernière 221 familles pour des dettes d'électricité, de cantine, des soins dentaires, etc. Donc, il faut faire rentrer de l'argent, vulgairement parlant.
Et le concert est un moyen.
Ce concert est un moyen d'y arriver.
Un petit mot sur le concert. Qui va-t-on entendre et
alors, on va entendre l'ensemble Ariana, qui est connu sur la place de Montpellier. Alors là, c'est un ensemble qui est...
Vocal.
Pas
tout.
Oui, non, là, c'est pas vocal, c'est instrumental parce que l'ensemble Ariana est à géométrie variable et fait ou non intervenir le chœur Ars Musica. Donc là, c'est trois personnes. Il y aura un violon baroque.
On va peut-être pas les citer.
Violon baroque, basse de viol et clavecin, dirigé par Marie-Paul Nounou, bien connue aussi, avec un concert essentiellement baroque, Bach, Buxtehude, et je ne sais pas si je prononce, ou c'est peut-être Buxtehude, et Bieber. Et c'est dimanche à l'église de Lattes.
Voilà, je vais vous dire, donnez-nous le lieu et l'heure surtout. Donc, concert baroque. Hein. Donc, 17h, église de Lattes.
Ah, oui.
C'est au profit du Secours catholique.
Des personnes accompagnées par le Secours catholique.
Voilà, des personnes accompagnées par le Secours catholique. Venez nombreux, c'est l'occasion, effectivement, voilà. Si vous ne voulez pas adhérer tout de suite, et peut-être d'adhérer d'ailleurs, mais si vous ne voulez pas adhérer tout de suite, c'est l'occasion de, entre guillemets, porter votre pierre à l'édifice.
Voilà.
Le petit grain de sable, c'est l'histoire du colibri.
Il en faut beaucoup.
Il en faut peu, mais pour beaucoup de gens. On rappelle peut-être le numéro de téléphone si on veut éventuellement adhérer. Là, je suis en train de prendre de cours Dominique, mais qui va retrouver très vite sa fiche. Donc, ça commence par 04, je peux vous aider.
C'est vrai que ça commence par 04. Là, il n'y a pas de...
Mais dans tous les chiffres cités, il faut retrouver le bon.
Il faut trouver toujours le bon. Et effectivement, le bon téléphone, nous allons le retrouver si c'est possible. Et le téléphone, il est le suivant. Il est 04 98 13 61 13. Je répète, 04 98 13 61 13. Appelez nombreux et venez nous rejoindre.
Sinon, vous cherchez sur le site du Secours catholique de l'Hérault et vous le trouverez sans aucun problème. Je vous remercie à tous les auditeurs et les auditrices de nous avoir suivis dans ce 10-10. Donc, il parlait, vous l'avez bien compris, du Secours catholique en général, du Secours catholique de l'Hérault, mais aussi de la grande pauvreté et du bilan qui a été fait après 30 ans. La pauvreté était cause nationale en 2094. Que s'est-il passé en 30 ans? Mais maintenant, vous le savez. Merci à Dominique, merci à Françoise d'être venue, merci à Olivier qui a assuré la technique de cette émission. Et à très bientôt dans un autre 10-10 avec un autre sujet. Vous savez, tous les jours, les sujets sont différents et très variés. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Il ne sera pas chaud, il sera pluvieux, mais on commence à en prendre l'habitude. Au revoir, à la prochaine fois.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.